Je suis très fière de vous présenter mon sponsor, The Artist Academy. L'écriture tient une grande place dans ma vie, et j'ai trouvé que cela faisait sens de vous présenter cette académie d'écriture. The Artist Academy est connue pour proposer des masterclass d'écrivains lus dans le monde entier, comme Eric Emmanuel Schmidt, Raphaël Giordano ou Bernard Werber. Des masterclass dans lesquelles ces grands auteurs vous partagent leurs meilleures techniques d'écriture. Cette fois-ci, The Artist Academy va plus loin, avec une nouvelle offre qui s'appelle l'Académie d'écriture. L'Académie d'écriture, c'est un coaching sur 12 mois qui vous prend par la main de la première page au point final de votre manuscrit. Vous êtes coaché par des agents littéraires et vous avez accès aux masterclass de 8 grands auteurs. Les thèmes abordés? Donner vie à vos personnages. Travailler la musique des mots. Structurer votre récit. Ce programme est fait pour tous ceux qui ont un rêve d'écriture et qui veulent enfin le réaliser. Que vous soyez débutant ou expérimenté, c'est un programme qui vous aidera à installer une routine d'écriture dans votre vie, à développer votre légitimité et à ouvrir votre créativité. On parle souvent ici, dans la fin des règles, de ce moment de la midlife où l'on revient à soi pour aller à la poursuite de ses propres désirs. Si vous avez envie de rejoindre cette académie d'écriture, alors avec la fin des règles, vous aurez 10% de remise. Je vous invite à remplir le formulaire qui se trouve dans le descriptif pour avoir toutes les informations. Si vous aimez écrire et que vous avez envie de tenir votre livre entre les mains, allez-y de ma part. Je vous propose ici un épisode bonus avec Géraldine Dermois, que vous avez pu entendre dans l'épisode de la semaine dernière. Alors ici, il n'est absolument pas question ni de midlife ni de ménopause. On a uniquement parlé de créativité, d'écriture, de newsletter, de sujets qui nous passionnent toutes les deux. Et au début, je me suis dit que c'était trop personnel. Et après, je me suis dit non, je vais quand même faire un épisode bonus pour toutes celles qui ont envie d'écouter ça en plus. Surtout si vous avez aimé le premier. Il est très différent. Si vous n'avez pas aimé le premier, je vous invite aussi à l'écouter parce que je sais que j'ai eu toutes sortes de retours sur nos échanges avec Géraldine. Eh bien écoutez, je vous laisse écouter. À bientôt.
La fin des règles. C'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez.
Il y a quelque chose qui me fascine chez toi, c'est tout ce que j'apprends de toi en lisant ta newsletter.
Oui.
Et j'adore. Et ça me fait beaucoup penser à mon propre travail, parce que moi aussi j'ai lancé une newsletter pour accompagner le podcast, mais qui en fait ressemble beaucoup plus à moi, mes réflexions, ma vie, ce que je traverse, comment je le vis et comment je le... qu'est-ce que j'en fais pour essayer d'apporter de la valeur aux gens qui me lisent, que ce soit pas juste brut, mais que ce soit un petit peu... travailler. Et même, ça fait écho à des choses que j'ai faites à peu près à l'époque où toi, tu as dû commencer à bloguer. Enfin, moi, c'était même le tout début du blogging parce que j'ai démarré ça en 2003, j'avais 25 ans. J'ai tenu un blog à l'époque où ma mère ne devait même pas connaître le mot. Et j'ai fait ça pendant un an et c'était merveilleux comme expérience d'être lue, de raconter les choses de mon quotidien,
oui.
De les mettre en scène. Et d'avoir un lectorat qui me suivait, qui était bienveillant, etc. Et après, j'ai totalement refermé ça. Je suis passée au journalisme, pur et dur. Je me suis dit, ouais, ça, c'était bidon. Maintenant, je vais en faire quelque chose de vrai, de l'écriture. Je vais gagner ma vie avec. Je vais écrire de vrais articles. Ça, c'était pour de faux. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était pas pour de faux. C'était vraiment moi et j'y reviens. Et toi, tu l'as jamais lâché, en fait. Tu as toujours été dans cette relation à faire émerger une communauté, à la garder sur une très, très longue période. Donc, une communauté qui est aujourd'hui très bienveillante, qui te connaît aussi bien que toi-même, en fait.
Même mieux parfois.
Ça, je sais pas. Mais qui a accès à toute ta vie, en fait, avec ce recul de t'avoir lu pendant des années.
Oui.
Et je me dis, mais quelle chance de ne pas avoir lâché ça, d'avoir toujours fait fructifier ça.
Bah, je ne l'ai pas lâché parce que j'en ai un besoin quasi vital. Hein. On a besoin d'avancer ensemble avec les personnes qui me suivent. Et c'est une relation d'une richesse inouïe sur laquelle j'ai du mal à poser des mots, en fait. Je réfléchis dessus régulièrement et je leur en parle. Mais il y a quelque chose qui nous dépasse, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout maîtrisé. Mais effectivement, ma communauté... Donc moi, j'ai commencé mon blog en 2005. Et puis après, il y a eu les réseaux sociaux. Et après, il y a eu les newsletters. J'ai commencé une newsletter à l'Express. Donc moi, j'ai été 10 ans journaliste à l'Express. Et c'est là que j'ai découvert le format newsletter. Et je crois que c'était en 2017. Et quand je suis partie de l'Express, j'ai relancé une autre newsletter. Et aujourd'hui, c'est en fait ça m'a pris vraiment beaucoup de temps de comprendre que c'était le cœur du réacteur de du dispositif que je me suis construit en tant que freelance qui a plusieurs activités. C'est quelque chose qui ne me rapporte pas d'argent, ça m'en coûte même de l'argent, la newsletter. Je l'ai longtemps écrite en me disant « Oh là là, tu perds une journée par semaine à écrire un truc qui ne te rapporte pas d'argent. »
Ça te prend une journée par semaine aujourd'hui ?
Ça me prend une journée, oui. Et c'est tous mes vendredis. Et c'est énorme. Et je me disais,
donc tu commences le matin et tu l'envoies le soir dans la foulée, tu la laisses pas reposer.
Ouais, j'ai aucun recul. En fait, j'y réfléchis pendant toute la semaine. C'est une vraie discipline. J'y réfléchis toute la semaine et je m'y mets le vendredi matin, parfois le vendredi après-midi, et il faut qu'elle soit partie le vendredi en fin de journée, ce qui est vraiment chiant parce que du coup, je termine, je l'envoie à 20h, quoi. Donc les gens, ils en ont marre parce que au début, enfin pendant longtemps, je l'ai promise à 16h, mais je l'envoie jamais à 16h. En fait, je la repousse. Et à 20h, moi, il y a mon fils qui frappe à la porte, il me dit « je veux ma pizza ». Et je lui dis « je suis en newsletter, j'ai pas terminé, tu vois bien, donc ferme la porte ». Donc ça me prend, en gros, ça me prend 6 heures d'écriture, de réflexion, mais avec la réflexion quand même...
De toute la semaine.
De toute la semaine avant, donc c'est un truc...
Voire parfois de plusieurs semaines, mais le truc n'émerge qu'à ce moment-là, en fait.
Exactement, donc tu sais ce que c'est. Donc c'est un gros boulot et en même temps c'est mon écriture introspective. Enfin c'est ma façon d'avancer, c'est mon hygiène de vie.
Il y a pas d'autre endroit où tu fais ça? Tu as le flow le matin et la newsletter. T'as pas un autre espace caché?
Non, mais effectivement il y a aussi le flow du matin. Enfin le journaling du matin. Donc ça fait quand même beaucoup parce que le matin j'écris 3 pages tous les matins manuscrites.
Avant d'aller courir, juste pour
avant comprendre. D'aller courir, voilà, c'est ça, c'est de 5h30 à 6h, dans un état de semi-conscience, qui peut faire émerger des idées de newsletter, ça dépend des jours, mais ça fait beaucoup, et donc périodiquement, je me suis dit, non mais cette newsletter, tu lâches, concentre-toi sur des choses qui te rapportent de l'argent parce que faut bien que tu gagnes de l'argent. Et puis en fait, j'ai compris à quel point, non, ça ne me rapporte pas d'argent directement, mais en fait, c'est le socle de toute ma relation à ma communauté. C'est que, et alors là, moi, je suis vraiment passionnée par les histoires de communauté et je pense que c'est vraiment. J'ai écouté. Le podcast de Génération Do It Yourself avec Nicolas Aignon, il n'y a pas longtemps.
Celui ouais, de
tu l'as
la
entendu.
Pense, ouais.
Il est vraiment, j'en suis toujours pas revenue en fait. Je pense que c'est un truc, j'en ai pas encore parlé en ligne, mais c'est une lectrice que je remercie, Caroline, qui me l'a recommandé, parce que j'écoute pas tous les Générations Do It Yourself parce que c'est trop long et il parle trop, Mathieu Stéphanie. Et là, il a battu tous ses records, c'est le truc qui dure 3h50, je crois. Mais c'est une il est presque en lévitation le mec et en fait à un moment il parle de zone de génie et je pense que c'est un peu un truc qu'on va entendre à toutes les sauces hein, parce que ça peut paraître très prétentieux de parler de sa zone de génie mais en fait la façon dont il l'a définie donc c'est le fait le domaine enfin les domaines dans lesquels chacun enfin, une personne excelle et que ça lui donne de l'énergie. Et donc, c'est important de réussir à comprendre en tant que personne, où est notre zone de génie pour pouvoir aller vers elle et la chérir et la faire grandir. Et moi, j'ai compris que ma zone de génie, c'est la communauté. C'est vraiment quand je suis en lien avec mes lectrices me donnent de l'énergie. Et écrire une newsletter, bah, sur le moment, ça me prend de l'énergie, mais ça me fait avancer, il y a quelque chose d'exaltant et toutes les réactions que ça va provoquer, tous les liens que ça va provoquer, et tu vois, si on se voit aujourd'hui, c'est aussi parce que tu dis pas forcément ma newsletter toutes les semaines, mais il y a quand même un lien qui s'est créé via la newsletter. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à une époque dans le rapport aux réseaux sociaux. Je me pose beaucoup de questions dans l'évolution de nos rapports aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu parles à des grandes... c'est ouvert à tous les vents. Et donc, moi, j'ai une communauté de plusieurs dizaines de milliers de gens sur Instagram. C'est une masse de gens. Et donc, puisque tu parles à tout le monde, eh ben, tu parles à personne.
Mais comment tu choisis ce que tu mets dans tes newsletters et ce que tu mets dans tes posts Instagram?
Eh bien, ma newsletter, les gens doivent s'abonner en me laissant leur mail. C'est un engagement autrement plus fort que de s'abonner à un compte Instagram. S'abonner à un compte Instagram, c'est déjà un engagement. Mais donner son mail, alors qu'on est abreuvé de newsletters en tout genre et de sollicitations, c'est un vrai engagement. Et les gens n'hésitent pas à se désabonner, et ils ont bien raison. Et donc ils vont recevoir la newsletter dans leur boîte mail, et donc il y a quelque chose d'intimiste parce que c'est de personne à personne, et il y a quand même très peu de personnes qui vont aller me dire des choses méchantes à la suite d'une newsletter. Au pire, ça leur plaît pas, mais ils me lâchent et puis très bien, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, mais on n'a plus rien à faire ensemble. Mais ils vont pas aller me dire tu penses ça, c'est ridicule. Et donc ça crée des circonstances qui permettent la confidence, qui me permettent moi d'aller beaucoup plus loin que je n'irais dans des réseaux sociaux où j'aurais vraiment tellement peur de me prendre un scud que je surveille tellement ce que je dis que je vais beaucoup moins loin. La newsletter, c'est un laboratoire. C'est un endroit où, oui, j'écris à mes lectrices, mais je m'écris à moi-même avant. Ouais. Et je vais explorer qu'est-ce qui m'a posé problème dans la semaine, ce sur quoi j'ai buté. Qu'est-ce qui a besoin d'être exploré sous d'autres angles, et donc je ne sais pas où est-ce que je vais arriver. Et mes lectrices, elles aiment quand je cherche avec elles. Si c'est pour leur dire voilà, j'avais un problème et puis j'ai fait ça et ça et maintenant c'est réglé. En fait, elles sont presque déçues. C'est pas une masterclass qu'elles veulent. Enfin, une masterclass, ok, je donne des solutions pour des clés pour qu'elles les aident à avancer. La newsletter, c'est un work in progress ensemble. Et donc, plein de fois, c'est raté. Plein de fois, j'ai aucune réaction. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est encore pire.
Moi, c'est horrible. Parfois, j'ai plein de réponses de gens qui disent « J'adore tes newsletters, etc. C'est super ce dont tu parles. » Et puis, parfois, rien. Je dis « Mais qu'est-ce que j'ai dit pour personne qui me répond ?» C'est horrible.
Bah ouais. C'est un peu horrible, et en même temps...
Il y aura la semaine prochaine, hein.
C'est pas ça, c'est qu'il y a l'expérience, en fait, c'est qu'aucune aucune newsletter n'est perdue. C'est qu'en fait, elles vont toutes nous servir à quelque chose. Mais pour ça, il faut être sincère. Il faut que moi, je pars du principe qu'il faut que j'ai tout donné dans l'écriture, parce que peut-être qu'il va pas y avoir de réaction, et c'est pas grave, parce que de toute façon, moi, j'ai progressé quand j'ai écrit, parce que ça m'a permis d'aller explorer des endroits qui n'étaient pas tout à fait clairs pour moi, et j'ai changé un petit peu, et donc je me suis un peu transformée, et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu mieux à chaque fois. C'est devenu ma baseline du moment. Je ne sais pas si je la garderai longtemps, mais franchement, moi, je vise un mieux-être, hein. Et ça ne dépend pas des autres, hein. Donc même s'il n'y a pas de réaction, je vais continuer. Et oui, il y aura d'autres newsletters, mais je ne cherche pas de validation. Moi, je cherche quand même un dialogue. Donc, c'est sûr que c'est toujours plus sympa quand je reçois des réactions. Mais surtout quand on n'en a pas, on ne sait pas pourquoi il n'y en a pas, en fait. Donc, c'est un peu, on se dit, on part dans des, on se perd en conjecture, enfin, en supposition. Mais souvent, j'ai l'explication après. Des semaines après, j'ai des copines qui me disent, ce truc-là, vraiment, ça, j'ai complètement décroché pour telle et telle raison. Et je me dis, c'était donc ça. Mais en fait, quand ça roule, c'est pas forcément là où on apprend le plus. Donc, quand il y a plein de réactions parce que, on a touché un nerf, les gens se sont reconnus dans nos textes, c'est super, mais enfin, ça a roulé, en fait. On apprend vachement plus quand ça coince. Moi, là où j'ai le plus appris, c'est quand mes lectrices ont buggé parce que j'avais parlé d'une marque et que les relations aux marques, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai des lectrices qui sont très critiques et qui sont dans la newsletter, dans un rapport de où elles viennent là pour qu'on réfléchisse ensemble. Et donc, une marque, ça peut très vite polluer l'espace. Et donc, je me suis vraiment pris les pieds dans le tapis plusieurs fois et je risque de me les reprendre. Ça me fait avancer que elle me signifie que mais tu nous as fait ce coup-là, moi ça m'a pas plu. C'est de la pâte à modeler tout ça, c'est du fine tuning. C'est pas l'express, c'est pas une grosse machine, c'est moi dans ma petite coquille de noix et donc j'avance avec quelques lectrices en face. J'ai la newsletter, c'est 16 000 abonnés, mais par rapport à d'autres personnes, c'est beaucoup moins. Donc ça reste encore très humain et artisanal.
Et elle est ouverte, tu connais le taux d'ouverture ?
Oui, c'est au bout d'une semaine, c'est 75%.
Ouais, donc elle est très ouverte.
Il y a un très gros engagement.
Ouais, moi, j'ai le même engagement, même un peu plus, mais j'ai que 250 personnes qui me lisent.
On revient au rapport à la communauté, c'est qu'est-ce que tu fais avec ces 250 personnes ? Quel rapport t'as avec elles ? Quelle étroitesse de lien tu réussis à nouer avec eux ?
Il est très fort, c'est le cœur de ma communauté.
C'est que 250 personnes, ça fait déjà beaucoup de discussions.
Ouais. Ah ouais, je la remercie.
C'est ça, au bout du compte, ce qui compte, c'est la conversation. D'ailleurs...
On est là pour ça.
On est là pour ça.
Le flow, ça fait combien de temps que tu le pratiques le matin ? Donc c'est écriture libre le matin, de ce que j'ai compris, c'est quelque chose qui n'a pas de vocation littéraire, qui est juste là pour sortir les émotions de la nuit.
J'ai commencé le flow de pensée en 2017 ou 2018. Il y a longtemps, quand j'étais en train de me faire soigner pour mon cancer. Et j'y suis arrivée très progressivement. Je raconte tout ça dans un atelier qui est toujours disponible en ligne. C'est la minute auto-promo, mais parce que j'ai vraiment beaucoup à dire là-dessus et que... ça a pour moi été une grande source d'apprentissage et que le flow de pensée est pour moi un outil extrêmement puissant de connaissance de soi.
Moi, je me réveille à 7h50, je réveille les enfants, je les mets à l'école, je récupère ma journée à 9h. Oui, j'ai le temps de placer du flow de pensée, ça ne marche pas. Il faudrait que je me réveille comme toi avant tout le monde. C'est pas mon rythme.
C'est pas forcément pour tout le monde de se réveiller très tôt le matin. Donc... Il y a des personnes dans les personnes qui ont suivi mon atelier qui le font à un autre moment de la journée. Et c'est pas forcément systématique non plus. Le flow de pensée, c'est un outil. Donc, l'outil, il se fait à ta main, en fait. C'est toi qui décides. C'est pas à toi de te ranger à une façon de faire forcément standardisée. Mais moi, ce qui marche, c'est de le faire très tôt le matin, au réveil, parce que il y a cet état où je suis encore proche de mes rêves et l'inconscient est encore, je suis encore connectée à mon inconscient et il n'y a pas encore le mental qui a mis son truc de jugement et de qui freine beaucoup de choses.
Tu les jettes les feuilles après ?
Non, je garde tout dans des carnets et je les relis assez peu, mais je suis contente de les avoir. Et donc il y a eu des étapes. J'ai longtemps écrit des tout petits des textes courts et puis j'ai découvert Julia Cameron qui a popularisé l'expression de flot de pensée et qui elle recommande 3 pages manuscrites et donc c'est ce que je fais. Je tiens vraiment à ce que ce soit manuscrit. Donc Julia Cameron, elle a écrit un livre qui est très important pour les personnes qui nous écoutent. Si vous connaissez pas encore Libérer votre créativité,
c'est un livre assez ancien.
C'est un livre ancien qu'elle a dû écrire, je sais plus, début des années 90, je pense, mais qui reste très très important pour avoir une démarche introspective à travers l'écriture. Et donc oui, ce côté journaling de 3 pages chaque matin, en fait. Ça permet c'est comme de se brosser les dents. C'est une hygiène mentale qui fait que je cherche pas du tout la qualité. Il y a plein de fois où j'ai l'impression d'écrire des trucs qui ne sont pas très intéressants. Mais tout d'un coup, il va y avoir une idée neuve. Tout d'un coup, une pensée qui surgit de nulle part, que je ne croyais pas avoir, et qui me fait reconsidérer une relation. Avec quelqu'un de mon entourage ou une piste de boulot ou quelque chose important dans ma relation à mon fils ou à mon mari et qui va faire que je suis connectée à moi. Donc c'est devenu mais extrêmement important pour moi. Et vraiment je fais du prosélytisme à tout va parce que je veux surtout pas que les gens croient que c'est réservé à des personnes dont le métier est l'écriture, donc journaliste. Non, à partir du moment où vous savez écrire, vous pouvez, si vous en avez envie, c'est vraiment pas pour tout le monde. Il y a plein de gens, si ça vous saoule, faut surtout pas y aller. Mais si vous sentez une appétence, il y a quelque chose qui vous titille avec le fait d'écrire, les jolis carnets, le livre, c'est qu'il y a quelque chose à explorer et vous avez le droit de vous accorder cette ressource-là. C'est une ressource.
Moi, ça, je sais pas, il y a quelque chose qui me fait peur là-dedans. D'abord, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de secret dans cette maison, que tout traîne et que c'est facile qu'un truc soit ouvert. Même mon ordinateur, il n'est pas spécialement caché. Mon fils va consulter Pronote en permanence dessus. Donc, j'ai cette absence de chambre à moi, on va dire, dans cet appartement qui pourtant est grand et pourrait le permettre. Toi, j'ai l'impression que t'as pas du tout ce sujet. T'es vraiment, t'as ton espace, t'as pas peur d'une intrusion.
Je me le suis construit. Je me suis construit ma chambre à moi. Je suis partie de Paris pour... une des raisons, c'était pour avoir ma chambre à moi. Donc, aujourd'hui, j'ai mon bureau. Mais c'est vrai, donc on habite à Montélimar et mon mari et moi, on a chacun notre bureau. Alors qu'on était à Clichy dans trois pièces où j'écrivais dans la chambre où on dormait avant. Donc je me le suis construit, mais c'est vrai qu'il est ouvert, il n'est jamais fermé ce bureau, mais je trouve que c'est quand même fort ce que tu dis, que t'as pas d'espace à toi. C'est-à-dire que c'est pas forcément un espace physique. T'as pas un espace où tu peux être entre toi et toi, protégé de toute intrusion. Je pense que c'est important d'en avoir et pour boucler la boucle, revenir à la ménopause, c'est que ça devient, enfin il y a ce processus d'individuation dont parle Carl Gustav Jung au milieu de la vie qui fait que on se détache de ce que la société nous a dicté pour aller vers notre individualité et pour comprendre quelle est notre singularité. Et ça, ça ne peut se faire que si on met des autres à distance et qu'on a un retour sur soi et qu'on s'explore. Et donc, l'écriture introspective, on peut la protéger. Enfin, on s'achète une valise métallique, il y a une petite clé et on met ses carnets à l'intérieur. Et on explique à ses proches pourquoi on fait ça et à quel point on tient à avoir un espace qui n'a pas vocation à être lu par les autres. Je pense que ça se décide aussi. Et j'ai plusieurs personnes qui ont participé à cet atelier que j'ai donné, qui ont exprimé à quel point elles avaient été traumatisées par un parent qui avait ouvert un cahier, un journal intime quand elles étaient ados. Ça crée des traumas. Ça veut dire que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à écrire parce qu'elles ont toujours peur d'être lues. Et je pense que là, il y a vraiment un travail à faire de libération. Je le sous-estime pas. Je sous-estime pas la difficulté. Hein. Mais c'est extrêmement important parce que du coup, on se coupe d'une relation à soi qui est extrêmement importante. Comment on peut savoir ce qui est important pour nous si on n'a pas cet espace-là?
Ouais, effectivement. Si je reprends un petit peu le cours de ma vie, quand je me suis mariée avec Marc et que j'ai eu des enfants dans la foulée, j'ai totalement arrêté d'écrire pour moi parce que j'avais l'impression que écrire, ça me coupait du fait de vivre. J'avais l'impression que c'était antagoniste. Je voulais arrêter d'être dans le rêve, dans l'écriture, pour être dans la vie. Je n'ai même pas tenu un journal de ce que des premiers apprentissages, des pas de bébé, etc. Je voulais pas. Je voulais être juste dans ressentir les émotions des instants que je vivais, être dans le moment présent. Et donc, pendant assez longtemps, j'ai totalement arrêté d'écrire. J'écrivais... Non, vraiment, j'ai arrêté. Et je le retrouve maintenant. Je retrouve mon âme d'écrivain maintenant.
Mais ça se comprend, cette façon de procéder. T'as vécu pleinement les choses et t'avais pas besoin de l'écriture à ce moment-là. Et, enfin, il y a... Je pense que la majorité des gens, ils font ce... Je sais pas si c'est toujours un choix, mais en tout cas, ils avancent comme ça dans la vie et c'est très bien. C'est si ça te titille que là, il est peut-être important de se dire, bon, bah, en fait, j'évolue et il y a peut-être quelque chose à réouvrir.
Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est ça la midlife, ce qui se passe dans ce moment où on sent qu'on n'est plus tout à fait jeune, pas encore vieille, que la ménopause arrive, mais qu'elle n'est pas encore là.
Oui, on a besoin de... Plus on a une... On réussit à prendre du recul et à monter d'un étage, comme dit mon psy, plus il y a une sorte de clairvoyance et ça peut passer par... par l'écriture, mais moi ça passe aussi par la photo, par exemple. Je me souviens d'une personne que j'avais coachée et qui me disait, mais moi je n'ai pas le réflexe de prendre des photos de mon quotidien parce que moi je veux vivre les choses et si je prends une photo, ça interfère avec ce que je suis en train de vivre et ça m'empêche d'être dans le moment présent. Et elle avait raison, quelque part. La photo, elle vient. Après, elle vient en plus, et en même temps, pour moi, elle est quasi aussi importante que l'écriture, parce que pour vivre pleinement, j'ai besoin de revivre par l'écriture, comme le dit bien mieux que moi Annie Ernaux, c'est pour que ça soit vécu pleinement, on a besoin d'écrire sur ce qu'on a vécu, et j'ai besoin en plus de... souvent, retenir par la photo, c'est retenir le temps, et c'est garder une empreinte, Et du coup, c'est un numéro d'équilibriste parce que c'est vrai que je veux pas non plus avoir être comme plein de gens qui prennent en photo au lieu de vivre le moment présent. Il faut que ça vienne en plus, que ça retienne quelque chose, mais que j'ai quand même savouré le moment. Donc, c'est pas facile.
Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Le prochain épisode sera un épisode normal à nouveau. À bientôt.
Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez envie de prolonger l'expérience, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. C'est mon espace caché pour penser au calme. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Et puis aussi, j'adorerais que vous veniez me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On se parle sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est comme vous préférez. J'ai hâte de vous entendre. À très vite.